Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La Russie a coupé le gaz aux Pays-Bas qui deviennent le quatrième pays européen privé de livraison directe de gaz russe. L'Union européenne cherche des solutions pour réduire sa dépendance aux ressources russes. Regard dans votre journal sur l'alternative partielle que pourrait représenter l'Algérie avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réuniront samedi à Accra, au Ghana. Réunion pour évoquer notamment la situation politique au Mali. Nous écouterons Sédi Kaba, journaliste expert de la géopolitique du Sahel. Au Liban, le président du Parlement sortant et seul candidat Nabih Berri a été réélu, un poste qu'il occupe sans interruption depuis 1992. Israël a signé avec les Émirats arabes unis son premier accord de libre-échange avec un pays arabe. Les pourparlers en vue de cet accord avaient débuté en novembre dernier. La justice française ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort d'un journaliste de BFM TV. Frédéric Leclerimov a été tué dans l'est de l'Ukraine alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Les prix continuent à augmenter en France. L'inflation a continué à accélérer en mai pour atteindre 5,2% sur un an. La barre des 5% n'avait pas été atteinte depuis septembre 1985. L'Union européenne va mettre fin à 90% aux importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Les chefs de l'État et de gouvernement sont convenus d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations. La Russie qui a coupé le gaz aux Pays-Bas, ils deviennent le quatrième pays européen privé de livraison directe de gaz russe. Parmi les pays qui pourraient représenter une alternative partielle aux importations énergétiques russes, l'Algérie. Entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Si on parle du gaz naturel, l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de l'Union européenne avec la Russie, avec la Norvège et également avec le Qatar. Le Qatar, l'Algérie, la Libye pourraient être des alternatives, disons, dans le futur, notamment pour le gaz, parce que l'Algérie est d'abord un producteur de gaz, pas de pétrole. L'Algérie est 11e producteur mondial, elle est membre de l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole. Elle est également membre du forum OPEP+, avec des pays hors OPEP, qui coordonnent leur action notamment par rapport à la production, par rapport à l'exportation et au contrôle aussi du marché. Donc l'Algérie pourrait effectivement devenir une alternative pétrole-gaz avec évidemment d'autres pays dans le futur. Et l'Algérie a toujours plaidé l'idée qu'elle est un partenaire fiable. Cela a été rappelé récemment lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Italie. L'Italie qui est un grand client de l'Algérie en matière d'énergie, puisqu'il y a un gazoduc qui est Enrico Mattei, qui traverse les territoires tunisiens, qui va vers l'Italie, qui donc fournit du gaz naturel à l'Italie. Et l'Algérie a aussi laissé entendre qu'elle pourrait augmenter la production du gaz, mais également de l'électricité pour la fournir à l'Italie et également à d'autres pays.
Un accord concernant le partenariat énergétique a été signé entre l'Algérie et l'Italie.
Oui, absolument. Le président Tebboune a évoqué la possibilité d'un câble sous-marin électrique pour fournir de l'électricité à l'Italie et à l'Europe. A parlé de la possibilité de travailler dans le domaine de l'énergie renouvelable, puisqu'il y a déjà deux entreprises italiennes qui travaillent en Algérie sur les panneaux photovoltaïques, et aussi sur l'hydrogène vert, puisque l'Algérie veut aussi aller vers cette forme d'énergie en collaboration avec l'Italie, en plus évidemment de l'augmentation de la production du gaz en coordination entre l'ENI, qui est le groupe italien, et Sonatrach. Donc il y a beaucoup de perspectives de coopération dans le domaine de l'énergie avec l'Italie, mais aussi avec d'autres pays comme l'Allemagne, puisque l'Algérie et l'Allemagne ont aussi des accords de coopération dans le domaine notamment de l'énergie renouvelable. Il y a aussi des accords avec la Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne est hors Europe, hors Union européenne actuellement, et avec d'autres partenaires européens comme l'Espagne, puisque l'Espagne, vous savez qu'il y a aussi un gazoduc qui alimente non seulement l'Espagne, mais aussi le Portugal en gaz naturel algérien, et que malgré la crise diplomatique qui existe entre les deux pays, l'Algérie a évoqué l'idée de maintenir la fourniture du gaz, puisque c'est un accord d'État à État, pas avec un gouvernement, mais avec l'État espagnol et l'État algérien, donc c'est un accord qui va durer pendant 20 ans.
Et comment évaluez-vous aujourd'hui la coopération énergétique entre la France et l'Algérie?
Même avec la France, il y a aussi des accords qui datent de plusieurs années. Vous savez que l'Algérie fournit du gaz naturel à la France avec des prix stables ou fixes. L'Algérie maintient des accords avec la France dans tous les domaines, notamment des accords par exemple pour la formation technique, pour l'exploration. Il y a des accords avec le géant français Total. La coopération paraît au beau fixe entre les deux pays, c'est-à-dire que c'est une coopération qui n'est pas du tout touchée, disons, par les différents diplomatiques, parce que les deux pays ont connu ces derniers mois une crise diplomatique après les déclarations du président Emmanuel Macron sur l'histoire, sur l'Algérie, etc. Il n'y a pas d'influence sur la coopération, c'est considéré comme une coopération stratégique. Et même l'Union européenne toujours considère l'Algérie comme un des partenaires fiables en matière de fourniture d'énergie, comme un élément important de la sécurité énergétique, puisque maintenant la sécurité énergétique de l'Union européenne est menacée avec la crise ou la guerre en Ukraine, avec la volonté donc de réduire les importations, de ne pas dépendre des importations du gaz ou du pétrole russe, bien que ça sera vraiment difficile, puisque l'idée aussi est de compenser cette perte par le GNL, qui est donc le gaz liquéfié. Le GNL peut être transporté par des bateaux. L'Algérie a déjà déclaré qu'elle pouvait transporter par méthanier ce gaz vers les côtes espagnoles, c'est les côtes les plus proches de l'Algérie. Contrairement aux États-Unis, ce pays a également évoqué la possibilité d'aider l'Union européenne en matière du gaz GNL, mais il faudra aussi compter le temps, puisque le méthanier pour traverser l'Atlantique prend beaucoup de temps, ce qui n'est pas le cas pour le côté algérien. Donc on peut considérer comme l'Algérie sera un des partenaires important de l'Union européenne dans le futur en matière de sécurité énergétique.
Et cela aura des incidences sur le front diplomatique.
C'est vrai qu'il y a eu une crise avec l'Espagne après le changement d'attitude ou de position politique de l'Espagne par rapport à la question du Sahara occidental, qu'il y a eu une crise diplomatique avec la France par rapport au passé, puisque l'Algérie, vous le savez, célèbre cette année, le 5 juillet prochain, les 60 ans de recouvrement de la souveraineté nationale, l'indépendance du pays, et on parle de le milieu diplomatique d'une possible visite en Algérie du président Macron, puisque l'Algérie est toujours l'une des premières destinations des présidents élus en France, c'est une tradition depuis longtemps, pour essayer de raffermir les relations, puisque les relations ont été touchées, notamment politiques, ces derniers mois. On peut déjà parler de la diplomatie énergétique ou la diplomatie de l'énergie. L'énergie, c'est aussi un moyen, peut-être parfois pour certains pays de faire pression, mais également pour d'autres pays pour essayer de consolider les relations avec des partenaires. L'Union européenne a toujours été un partenaire commercial de premier plan pour l'Algérie, puisque près de 60% des échanges commerciaux se font avec l'Union européenne, bien que l'Algérie maintenant cherche d'autres débouchés, d'autres marchés, notamment le marché turc, et le président Tebboune était en Turquie. Beaucoup d'accords ont été signés avec ce pays, il y a beaucoup d'entreprises turques qui travaillent en Algérie, la même chose avec la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Canada et d'autres pays.
Vous l'avez souligné, l'Algérie ne pourra pas compenser à elle seule la fin des importations de pétrole russe.
Elle ne pourra pas, parce que déjà l'Algérie fournit beaucoup de gaz à l'Union européenne, des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et même la Grande-Bretagne aussi, hein, parce qu'il y a aussi des accords, des anciens accords avec ce pays. Des accords ont été signés avec l'Allemagne, avec la France. 40% du gaz consommé en Espagne est d'origine algérienne, donc c'est un pays qui fournit beaucoup de gaz, mais l'Algérie a aussi des accords avec d'autres pays donc du bassin méditerranéen, asiatique aussi, parce qu'il y a des accords avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec l'Inde, l'Iran et d'autres pays. La sécurité énergétique dépendra de plusieurs partenaires, les États-Unis, l'Algérie, la Libye qui est aussi un des plus grandes réserves de gaz en Afrique, l'Angola est un pays lointain, mais bon, le Nigeria, vous savez qu'il y a un accord maintenant avec l'Algérie pour qu'il y ait un gazoduc qui transportera le gaz nigérian. Le Nigeria est aussi un grand producteur de gaz à travers l'Algérie pour aboutir vers la Méditerranée et ensuite vers l'Europe. Donc l'Europe devra peut-être chercher d'autres partenaires pour essayer d'assurer sa sécurité, notamment pour l'hiver prochain, puisque maintenant qu'il y a des doutes sur le gaz russe, que la Russie impose maintenant que le gaz soit payé par le rouble, l'Europe doit diversifier ses partenariats pour assurer sa sécurité énergétique.
Et cette coopération énergétique qui est donc amenée à s'amplifier, cela va avoir des conséquences économiques et sociales sur l'Algérie.
Les conséquences économiques, ce sera une conséquence plutôt positive, puisque les rentrées et les recettes du pays vont augmenter. L'Algérie a connu une crise depuis 2014 avec la chute des prix du pétrole sur le marché mondial. Donc elle a perdu près de 50% de ses réserves de change. Cette nouvelle demande, qui est une demande accompagnée de craintes, est une opportunité aussi pour l'économie algérienne pour essayer d'augmenter ses capacités, notamment une augmentation des devises et des réserves de change, et aussi pour aller vers la diversification, parce que maintenant le plaidoyer fait en Algérie d'aller vers une diversification réelle de l'économie avec l'implication des jeunes à travers les start-up, avec un intérêt grandissant pour les énergies renouvelables, pour le numérique, pour l'agriculture, pour le tourisme. L'Algérie étant un des plus grands pays aussi du continent africain qui pourrait être une grande destination touristique dans le futur.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort de Frédéric Leclerc-Imoff, journaliste de BFM TV, tué dans l'est de l'Ukraine. Il a été tué alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire près de Severodonetsk. L'enquête de flagrance est confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Elle porte également sur les blessures subies par un de ses confrères présents avec lui lors du reportage. Au Liban, le président du Parlement sortant et seul candidat, Nabih Berri, a été réélu, un poste qu'il occupe sans interruption depuis 1992. Il a récolté au premier tour 65 voix sur un total de 128, ce qui constitue la majorité absolue. Ce sera le 16 juin prochain, la chambre d'appel du tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban se prononcera sur l'arrêt lié à la condamnation de deux membres présumés du Hezbollah, deux hommes jugés coupables en appel dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri, tué dans un attentat à la bombe le 14 février 2005. Le TSL indique que l'audience de Hossein Onaissi et Hassan Habib Meri, jugés par contumace, se déroulera à 14h par visioconférence et sera retransmise en direct sur le site du tribunal. Israël a signé avec les Émirats Arabes Unis son premier accord de libre-échange avec un pays arabe. Les pourparlers en vue de cet accord avaient débuté en novembre. Les Émirats et Bahreïn ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020. C'était dans le cadre d'une série d'accords négociés avec les États-Unis. Le Maroc a emboîté le pas, tandis que le Soudan a également accepté de normaliser ses liens avec Israël, même s'il doit encore finaliser l'accord. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé pour le 4 juin à Accra, au Ghana. Le pays exerce en ce moment la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Le sommet sera notamment consacré au Mali. Gros plan sur la situation au Mali et sur son évolution, notamment après que la junte au pouvoir a annoncé quitter le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. Entretien avec Sédi Kaba, journaliste, expert de la géopolitique du Sahel, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation, Sédi Kaba.
Une situation qui s'est complexifiée de plus en plus. Et vous savez qu'au Mali, il y a eu le coup d'État dans le coup d'État. Le 25 mai 2021, la junte, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, avait renversé le pouvoir qui était lui-même issu du premier coup d'État du 20 août 2020, qui a renversé le président Ibeka. Et depuis cette date, les relations entre le Mali et la CEDEAO d'abord se sont complexifiées parce que le nouveau pouvoir malien, celui qui est issu du coup d'État de mai 2021, avait décidé de ne pas respecter l'agenda qui avait été précédemment convenu avec la CEDEAO et qui prévoyait la fin de la transition au Mali en février 2022. À côté de cette dégradation des relations avec la CEDEAO, le Mali s'est engagé dans un bras de fer diplomatique et même militaire avec la France, puisque comme on sait, en décembre 2021, l'ambassadeur de France a été expulsé du territoire malien et les relations depuis ne se sont pas améliorées jusqu'à ce qu'on arrive à la décision des autorités maliennes de renoncer à l'accord de coopération militaire avec la France. Et pour ne rien arranger aux choses, le Mali vient de décider de se retirer du G5 Sahel, qui est l'organisation commune avec le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, qui étaient dédiés à la lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, le Mali se trouve dans une sorte d'isolement diplomatique et dans une impasse militaire, parce que le Mali, à lui tout seul, ne peut pas faire face à cette insécurité. Et cette situation aussi s'est complexifiée avec le climat intérieur, puisqu'il n'est un secret pour personne aujourd'hui. Les libertés d'expression, les libertés de manifestation, les libertés d'opinion sont devenus de plus en plus problématiques sous le régime de la junte dirigée par Assimi Goïta.
Qui sont aujourd'hui les principaux adversaires au Mali de la junte au pouvoir?
Sur le front intérieur, la junte a essayé de réduire au silence la plupart des voix indépendantes. Et il n'y a pas à proprement parler une vie politique indépendante. Et aujourd'hui, si vous ne dites pas que le Mali doit asseoir sa coopération avec la Russie. Si vous ne dites pas qu'il n'y a pas de mercenaires russes, qu'il n'y a pas de mercenaires de la société Wagner au Mali, vous pouvez faire l'objet d'une répression. On a vu avec, par exemple, un des opposants les plus en vue, Omar Mariko, qui est aujourd'hui dans la clandestinité. Beaucoup de responsables maliens, l'ancien premier ministre, le dernier premier ministre de Ibeka, s'est exilé au Niger, l'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Tiémen Koulibaly, s'est exilé en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas d'adversaire aujourd'hui à proprement parler de la junte, parce que la junte a essayé de réduire au silence, y compris avec des méthodes parfois discutables. On se souvient du sort réservé à l'ancien premier ministre Soumaïla Bouvet-Mega, qui est mort en détention, faute de soins et faute d'autorisation d'être évacué. Donc, il y a aujourd'hui un climat au Mali qui n'est pas propice au retour à l'ordre constitutionnel, et on ne sait pas comment le Mali va s'en sortir de cette impasse, à la fois sur le plan militaire, diplomatique et politique.
Concernant la société civile, quel est son pouvoir aujourd'hui au Mali?
Vous savez, la société civile au Mali a été le fer de lance de la démocratisation. En 1991, c'est la société civile qui avait créé les conditions du coup d'État qui a renversé Moussa Traoré. Et la société civile au Mali a été toujours très active jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État dans le coup d'État, c'est-à-dire le putsch de mai. Aujourd'hui, la société civile malienne est presque réduite au silence. Elle fait face à une répression féroce. Les voix indépendantes de la société civile ont été quasiment réduites au silence. Et il n'y a pas aujourd'hui de place à la liberté d'opinion, à la liberté il n'y a pas aujourd'hui le pluralisme d'opinion qui a fait la tradition, qui a fait la solidité de la démocratie malienne. Tout cela a été bafoué par la junte. Aujourd'hui, il y a un recul grave de libertés au Mali, au point où les Nations Unies même s'en sont inquiétées.
Avec, vous l'évoquez, les membres du groupe Wagner qui sont présents sur le territoire malien. Qui sont ces personnes?
Oui, le groupe Wagner est un groupe que l'on connaît, un groupe russe qui n'est même pas de droit russe et qui a commencé à être visible en Afrique, surtout au niveau de la République centrafricaine. En RCA, et plus tard, le groupe, après le départ, au prétexte que la France a abandonné le Mali en décidant de retirer Barkhane et en décidant de redimensionner Barkhane, le gouvernement de Choguel a appelé à contracter, aussi des relations contractuelles avec Wagner, qui a envoyé des mercenaires qui sont aujourd'hui aux côtés de forces armées maliennes, qui épaulent les forces armées maliennes et qui font l'objet de diverses critiques, y compris de la part de la mission des Nations Unies au Mali, par des critiques d'exaction, des critiques d'abus, des critiques d'arrestation arbitraire.
Sédi Kaba, expert de la géopolitique du Sahel, auteur notamment de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous, chez Impact Éditions. En Tunisie, le secrétaire général de la centrale syndicale UGTT appelle le gouvernement et la présidence de la République à faire état de la réalité de la situation dans le pays. Nourdine Tabboubi dénonce, dit-il, le mutisme de l'exécutif. Il demande au gouvernement de trouver les solutions adéquates aux problématiques socio-économiques sans pénaliser les citoyens et la classe ouvrière. Les prix continuent à augmenter en France. L'inflation a continué à accélérer en mai pour atteindre 5,2% sur un an. Tous les postes de consommation sont concernés. La barre des 5% n'avait pas été atteinte depuis septembre 1985, depuis 37 ans. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Les invités de Pluriel à 19h et 23h, Maxime Da Silva, candidat de l'ANUPS dans la première circonscription de Seine-Maritime. À 19h30 et 23h30, Loïc Barrière recevra Naïma Sifer, candidate de la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de l'Essonne. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.